Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9 ou sur le web graphite.net. Je suis Quentin Duchemin et je suis cet après-midi en direct en studio avec quatre étudiants de l'Université de Technologie de Compiègne, Hugo, Raphaël, Rida et Florent. Bonjour à vous, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Alors on se retrouve pour des émissions autour du cours WE01, questionner le web, de l'UTC, dont le contenu est par ailleurs librement accessible sur librecours.net. Aujourd'hui, les étudiants viennent présenter le résultat de leur recherche du semestre, articulé autour de grandes problématiques reliées au web et plus généralement au numérique. Avec les idées d'éducation populaire et d'esprit critique en tête, chaque binôme va vous proposer un passage en trois temps. D'abord, une vulgarisation d'un concept du cours, puis une synthèse d'un article scientifique ou d'investigation, et enfin, une articulation critique du concept et de l'article. Pour cette deuxième émission de l'après-midi, vous allez découvrir deux phases d'un même système. D'un côté, le marché méconnu d'acteurs privés spécialisés dans l'achat et la vente de données personnelles. De l'autre, l'appétit des États pour la surveillance et l'anticipation à l'aide du numérique. Hugo et Raphaël, c'est à vous.
Nous sommes Hugo et Raphaël, et dans ce cas, nous avons pour but de vulgariser et d'approfondir une notion abordée en cours. Cette notion est le capitalisme de surveillance. Shoshana Zuboff, chercheuse américaine connue du grand public pour son travail sur le sujet, a décrit le capitalisme de surveillance comme un système d'extraction des données personnelles et de vente aux annonceurs des prédictions sur le comportement des utilisateurs. Pour rendre ces données attrayantes sur le marché, il faut que celles-ci soient de plus en plus pertinentes. Dans cette course à la prédiction la plus fiable, les simples données ne suffisent plus. Il s'agit désormais de modifier à grande échelle les conduites humaines. Pour mieux comprendre son application, écoutons un extrait d'un entretien avec Pouyou, co-directeur de Framasoft, une association d'éducation populaire au numérique, sur la chaîne YouTube de Rouge Vert Bleu.
La publicité, c'est la façon dont on voit le plus le capitalisme de surveillance. C'est-à-dire, ils captent mes comportements et ils revendent mes données pour des publicitaires, pour des annonceurs. Mais il y a d'autres manières dont tes données sont utilisées aujourd'hui, et aujourd'hui pas que aux États-Unis, en France. C'est-à-dire qu'en général, ce qui se passe, les données sont captées, ensuite elles sont rachetées par ce qu'on appelle des courtiers en données, les data brokers, qui vont les mélanger avec les données, par exemple, je sais pas moi, de ta carte fidélité Carrefour, de tes points Total, que sais-je. Voilà. Et donc il y a un mix de ces données, et ça va être aussi revendu à des assurances. Parce que ben, si tu achètes beaucoup de coca, voilà, ça peut être intéressant pour une assurance vie ou pour une assurance maladie de te faire payer un peu plus cher parce que peut-être que tu vas avoir des problèmes cardiovasculaires.
Comme le précise Pouyou, les données personnelles collectées sont très diversifiées pour obtenir l'information la plus précise sur une personne. En effet, cela peut aller de simples activités de loisirs jusqu'à notre origine, nos convictions politiques. Par exemple, Le Monde qualifie la géolocalisation sur certaines applications comme Le Bon Coin d'une précision alarmante. Elle permet de situer un utilisateur avec une exactitude de quelques mètres. Cette information pourrait vous faire tiquer. Comment Le Monde a-t-il eu accès aux données de localisation de Le Bon Coin ? En réalité, ces données sont collectées par des data brokers, des entreprises spécialisées dans ce domaine pour les revendre. Les data brokers ont de nombreuses sources de données, mais prenons l'exemple des applications pour smartphones pour illustrer une de leurs stratégies. Lors de la conception des applications, les développeurs ont la possibilité d'utiliser des outils gratuits, appelés SDK, en anglais Software Development Kit, principalement pour faciliter l'intégration de publicité. Ces outils sont comparés à un cheval de Troie, car en contrepartie, les entreprises proposant ces services se rémunèrent en collectant les données personnelles des utilisateurs. C'est ainsi que le data broker DataStream s'est retrouvé avec les données de Le Bon Coin, Vinted et autres. Dans la même idée, les éditeurs sont fortement incités à collecter les données de leurs utilisateurs, car la publicité est leur principale source de revenus, analyse Narceo Valina Rodriguez, chercheur et spécialiste des enjeux de protection des données mobiles. À cause de ces moyens de collecte qualifiés de discrets par Le Monde, certains développeurs sont dans une ignorance totale sur le transfert de données à des entreprises tierces. Aucune des applications interrogées ne déclare avoir eu des relations commerciales avec le groupe DataStream, affirme Netzpolitik. Également, d'après notre cours, une information se définit comme une prédiction réalisée à partir d'un grand nombre de points de données brutes. Ainsi, À l'aide de ces différentes prédictions, des algorithmes robustes, tels que ceux utilisant le machine learning, peuvent former une image très précise de nous, comme le précisent Burr et Cristanini, des chercheurs en informatique à l'université de Bristol en 2019. Par exemple, des prédictions sont réalisées sur les émotions, l'orientation politique, le QI, etc. Cependant, le problème est que la presse a tendance à surévaluer la fiabilité des informations selon Duhigg, un chercheur et auteur américain en 2012. Un cas emblématique souvent cité pour illustrer les dérives possibles de la prédiction algorithmique est celui rapporté par le New York Times, dans lequel la chaîne de supermarché Target avait réussi à prédire la grossesse d'une adolescente avant même qu'elle ne l'annonce à sa famille, simplement en analysant ses habitudes d'achat. Fraser, un data scientist, souligne en 2020 que cette histoire, largement relayée, illustre à quel point les médias tendent à négliger des notions pourtant fondamentales en sciences des données vis-à-vis de notions d'exactitude, faux positif, faux négatif, précision, mémoire des données d'entraînement. Dit autrement, cet exemple, même s'il était vrai, ne dit rien de la capacité de l'algorithme à ne pas se tromper ou bien à détecter tous les cas.
Alors, pour mieux comprendre ces concepts, nous allons nous pencher sur un article qui traite d'une affaire ayant touché l'Amérique en 2016. Cet article a été réalisé par Alex Hearn le 6 mai 2018 et publié dans le journal The Guardian. Alex Hearn est un spécialiste britannique de l'AI Writer pour le magazine The Economist, spécialisé dans l'IA et les sciences numériques de façon plus générale. Ici, dans cet article, il traite de l'affaire Cambridge Analytica pendant les élections américaines de 2016. Pour rappel, cette affaire concerne Cambridge Analytica, qui est une société spécialisée dans l'analyse de données à grande échelle et qui donne des conseils en communication. Cette dernière a été accusée en 2018 d'avoir influencé les élections américaines en exploitant les données de millions d'utilisateurs Facebook pour les inciter à voter pour Donald Trump. Il s'appuie du témoignage de Christopher Wilde, ex-employé de chez Cambridge Analytica, qui explique pas à pas comment la société britannique s'y est prise pour collecter et manipuler toutes ces données. Nous allons maintenant écouter dans un bref passage que voici.
Cambridge Analytica suspend son PDG après la polémique sur le siphonnage massif de données personnelles. Une décision prise après la diffusion de propos d'Alexander Nix dans un reportage de Channel 4. Le dirigeant, enregistré à son insu, affirmait avoir dirigé la campagne numérique de Donald Trump pour l'aider à remporter la présidentielle. L'entreprise de communication stratégique est accusée d'avoir mis la main illégalement sur les données de 50 millions d'utilisateurs de Facebook. Aux États-Unis comme au Royaume-Uni, la justice cherche désormais à savoir par quels moyens elle a pu en faire l'acquisition et comment Facebook a pu ignorer la situation. Le lanceur d'alerte et ex-employé de la firme Chris Wiley dit regretter d'avoir participé au projet.
J'ai fait des erreurs, je le regrette et j'en suis désolé. Mais ce que je dois faire en premier, c'est d'en parler aux gens. Et la prochaine étape pour moi sera de découvrir ce que je peux faire pour améliorer les choses.
Selon Christopher Wiley, la base pour réussir un tel exploit est tout d'abord de créer un moyen de récupérer des données transmises directement. Par exemple, un test de personnalité de 120 questions sur Facebook. Pour arriver à pouvoir en faire quelque chose de ces données, il faut d'abord définir trois variables. Tout d'abord, le training set, qui est composé de tout ce que l'on souhaite savoir à propos des utilisateurs, comme les likes et les abonnements Facebook, ou encore les résultats aux tests de personnalité. Ensuite, les feature sets, qui concernent les données utilisées pour réaliser les prédictions qui les intéressent. Pour finir, il y a les target variables, qui sont donc ce que l'on souhaite savoir prédire chez l'utilisateur comme son intention de vote, sa personnalité et ainsi ses réactions possibles par rapport à telle ou telle publication. Quelques dollars ont été proposés pour convaincre les utilisateurs à répondre à ce questionnaire. La personnalité des répondants est ensuite déterminée selon 5 grands axes. Sa volonté d'expérimenter, son application, si la personne est plus ou moins extravertie, son agréabilité et son neurotocisme, formant un graphe nommé en anglais « Ocean ». Wiley précise que ces traits sont regroupés dans des sortes de catégories plus générales. Par exemple, quelqu'un se décrivant comme bruyant a de grandes chances de se décrire aussi comme étant sociable. Si une personne reconnaît qu'elle appartient à telle catégorie psychologique, par exemple celle des extravertis, il y a de grandes chances que l'an prochain son avis reste le même. Et dans le cas contraire, si elle ne s'y reconnaît pas, on pourra tout de même voir ce qui diffère entre un individu qui s'y reconnaît et un autre qui ne s'y reconnaît pas. En se connectant via Facebook, pour répondre au quiz, Cambridge Analytica pouvait alors siphonner les données personnelles des répondants, mais aussi celles de leurs amis Facebook. On est ainsi passé de 270 000 personnes touchées à 87 millions. Ils les ont ensuite amalgamés pour pouvoir tirer des conclusions. 253 algorithmes ont été créés, ce qui correspond à 253 prédictions possibles par personne. 253 informations sont donc prédictibles, comme le caractère, si on est plus extraverti ou si on est fauché, etc. Les prédictions ainsi faites, il était alors possible de deviner avec plus ou moins de précision la réaction de ces individus face à différentes publications, selon la personnalité établie de chaque personne. Une publicité était faite sur mesure pour impacter au maximum la personne et ainsi influencer, voire supprimer son intention de vote.
Dans une troisième partie, l'article débute par la question « Comment 87 millions de données collectées sur Facebook peuvent-elles servir à une campagne publicitaire susceptible de faire basculer une élection ?» La réponse à cette question est liée avec les notions abordées au tout début, notamment sur les données personnelles collectées par les data brokers. Ces données sont par exemple récupérées via les activités en ligne des utilisateurs, notamment leurs likes sur Facebook, leurs achats, leurs recherches, puis revendues à des entreprises spécialisées dans la revente d'informations, les data brokers. Ces derniers jouent un rôle d'intermédiaire en collectant puis commercialisant ces données. Cambridge Analytica n'était qu'un acteur parmi d'autres, qui s'est notamment servi de ses bases pour nourrir ses tests de personnalité et affiner ses outils de ciblage. Le but de ce sondage est d'obtenir une méthode de prédiction enclenchée à l'aide de ces 253 algorithmes permettant de deviner les personnalités, les affiliations politiques. Ces algorithmes arrivent à fonctionner avec l'ensemble des données personnelles collectées sur les préférences des personnes, et ainsi de créer des publicités que personne d'autre ne pourrait concevoir, c'est-à-dire des contenus publicitaires extrêmement personnalisés, susceptibles d'influencer de manière ciblée l'opinion de certains groupes, comme ce fut le cas avec la campagne de Donald Trump.
Un même message peut être tourné de différentes manières afin de toucher des personnes de personnalités diamétralement différentes. En changeant la tournure du message et les valeurs mises en avant, on peut ainsi plus toucher un tel ou un tel. Par exemple, si on traite d'un sujet tel que le travail, il existe différentes valeurs que l'on peut mettre plus ou moins en avant selon l'individu, telles que par exemple la sécurité financière, l'enrichissement professionnel ou la participation au développement économique de son pays. Cependant, Alex Hearn a précisé dans son article que Christopher Wiley n'était pas au courant de tout ce qui concerne le modèle psychométrique associé. De plus, Alexander Kogan, qui est le chercheur à l'origine du quiz, s'est défendu devant le Parlement en avril 2018 en disant que ces modèles psychométriques présentent une marge d'erreur et que le graphe Ocean n'était pas toujours correctement appliqué. En effet, la prédiction ne possède jamais 100% de précision. Certaines informations sont plus difficiles à deviner que d'autres, surtout avec seulement les likes Facebook. Cela varie de 95% pour l'ethnicité à 60% seulement pour la situation parentale d'un individu. Dans ce qui nous intéresse, on est sur du 85% environ pour le bord politique d'un individu, selon Kosinski et Hall en 2013. Pour ce qui est des réponses données au quiz, on tourne plus autour des 70% de précision en moyenne pour déterminer le graphe Ocean d'une personne, avec ses appels téléphoniques par exemple, selon Chittarajan et Hall en 2011. Même avec les meilleurs algorithmes du monde, le 100% de précision semble inatteignable au vu du nombre de facteurs inconnus. Les prédictions faites par Analytica peuvent être fausses. La pub ciblée envoyée peut tout aussi ne pas toucher l'utilisateur et au contraire, une pub façonnée sur un profil Ocean incorrect de quelqu'un peut quand même le ou la toucher. On peut tout de même affirmer que cette affaire reste d'une gravité importante et qu'elle a influencé les élections américaines de 2016, bien qu'on ne sache pas à quel point. Cette affaire nous prouve qu'il existe bien une enchère et une marchandisation de la donnée avec Cambridge Analytica jouant le rôle de data broker et les conseillers de Donald Trump qui ont payé ces informations.
Même au-delà de la publicité politique, les algorithmes de recommandation eux-mêmes peuvent biaiser l'information. Une étude publiée dans Politsai et Internet en 2023 montre que l'algorithme favorise toujours des contenus radicaux, ce qui pose la question de la neutralité de ces systèmes. En effet, un contenu dit « choc » qui fera réagir sera la majeure partie du temps plus recommandé qu'un contenu classique, car la polémique ou le bad buzz fera tout de même réagir les internautes, que le contenu soit sain ou non. Pour aller plus loin, nous pouvons vous conseiller le reportage Cash Investigation, nos données personnelles valent de l'or, qui explore plus en détail ce marché invisible. Une autre piste à explorer également est celle de Framasoft, proposant des alternatives pour tenter de se libérer du capitalisme de surveillance, consultable sur https://dégoogolisonsinternet.org/fr. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup Hugo et Raphaël pour votre présentation. Je vais vous laisser Rida et Florent tranquillement le temps de changer les micros et les casques puisque nous n'avons que 4 micros. Et 4 casques pour 5 personnes. Mais c'est à présent chose faite, donc c'est parti, c'est à vous.
Avec Rida, nous allons vous introduire le concept de surveillance et de sécurité. Depuis l'Antiquité, la surveillance a été pensée comme un instrument de contrôle social au sein des les services des autorités. Les censeurs romains étaient chargés sous la Rome antique de collecter l'impôt, le cens, mais aussi de dénombrer et surveiller la population en consignant les revenus, biens, métiers et occupations de chaque famille. Ces magistrats, dont le mot « censure » tire son origine, n'étaient pas simplement là pour recenser, lever l'impôt et sanctionner les désordres publics. Ils pénétraient aussi dans les foyers, se renseignaient sur les rapports familiaux et jouaient en fait le rôle d'une véritable police des mœurs. Au fil des années, la surveillance a évolué, en s'adaptant aux technologies et en s'intégrant toujours plus dans les sphères de l'État comme dans celles des entreprises privées. Sous l'Ancien Régime, cette logique s'incarne notamment sous Louis XIV. Son lieutenant de police, M. de la Régnie, a mis en place un réseau d'informateurs, surnommé les mouches, qui infiltraient les milieux sociaux pour prévenir des conspirations ou les soulèvements. Là encore, l'objectif est clair, garantir la stabilité du régime. Avec la Révolution française de 1789, un changement de perspective émerge. Les révolutionnaires affirment dans l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que les citoyens ont le droit de demander des comptes aux autorités. Autrement dit, la surveillance ne devrait plus être à sens unique. Mais dans les faits, cette volonté de réciprocité reste marginalisée. Dès la période de la Terreur en 1793, c'est au contraire une surveillance généralisée qui s'installe. Des comités de surveillance et dénonciation. Le pouvoir renoue alors avec une logique verticale où l'État contrôle les individus sans véritable contre-pouvoir. À partir du XXe siècle, les avancées technologiques changent encore la donne. L'introduction de la photographie, de la vidéosurveillance, puis des systèmes de reconnaissance faciale élargit le périmètre de contrôle. La surveillance devient à la fois plus précise et plus discrète. Aujourd'hui, elle s'appuie sur l'intelligence artificielle pour analyser et suivre les comportements individuels en temps réel. Les entreprises privées, elles aussi, se sont emparées de ces outils. En France, dès les années 50, des sociétés comme CTLM ont utilisé la mécanographie, un ancêtre du traitement automatisé pour étudier la solvabilité des clients. Le salaire, l'âge, la stabilité professionnelle et les lieux de résidence sont centralisés et intégrés à des systèmes d'aide à la décision. Mais c'est sans doute en Chine que l'on trouve l'un des exemples les plus poussés de cette logique. L'État y a mis en place une surveillance de masse incluant reconnaissance faciale et collecte de données sur les habitudes des citoyens. Toutes ces informations alimentent un système de crédit social, un score attribué à chacun selon son comportement civique et politique. Un score bas peut entraîner des sanctions très concrètes, allant jusqu'à des restrictions d'accès à des services publics, voire des peines judiciaires. En France, la surveillance est généralement justifiée par des enjeux de sécurité, lutte contre le terrorisme et contre la criminalité. C'est ce que soulignent les discours officiels. Entre 2013 et 2023, le nombre de caméras a d'ailleurs augmenté de 50%. Mais paradoxalement, sur la même période, le sentiment d'insécurité n'a pas diminué et les chiffres de la criminalité, eux, ont augmenté. Ce qui pose une question de fond. Cette surveillance, aussi massive soit-elle, est-elle vraiment dissuasive? Est-elle vraiment efficace? Nous allons maintenant écouter un extrait tiré d'un podcast de France Culture s'intitulant « Police prédictive, légal tech, les algorithmes font-ils la loi ?» publié le 8 octobre 2021. Ici, Bilel Bendouzi, sociologue et maître de conférence de l'Université de Paris, Est-Marne-la-Vallée, au laboratoire interdisciplinaire Sciences-Innovation de la Société, va nous expliquer le principe de fonctionnement de PredPol, un logiciel de police prédictive. Cette explication sera utile pour la suite car elle est en lien direct avec l'article que nous avons choisi.
C'est simplement, PredPol, c'est un logiciel de cartographie qui prédit les crimes dans l'espace et le temps. Et ce n'est pas de l'intelligence artificielle, selon moi, en tout cas ce mot que je propose d'utiliser avec beaucoup de précaution. C'est des modèles statistiques qui viennent de la physique statistique et qui essayent de prédire des phénomènes de réplication des crimes. Ça s'inspire des séismes. Et au fond, quand il y a eu un crime à un endroit, il y a beaucoup de chances qu'il y ait un crime à ce même endroit, mais aussi de proche en proche que le crime se déplace, un peu comme se déplacerait une maladie. Donc il y a la métaphore de la contagion. Et donc c'est des modèles qui apprennent par eux-mêmes, parce que c'est de l'apprentissage statistique, mais il n'y a rien de magique derrière ces modèles-là.
Nous passons maintenant à la présentation de notre article qui va nous permettre d'approfondir le concept présenté. L'article choisi est un reportage écrit par Aaron Sankin, journaliste d'investigation, ainsi que Soria Mathieu, ingénieur principal en données et journaliste spécialisé en données d'investigation. L'article a été publié le 2 octobre 2023 sur le site de The Markup et copublié par Wired. The Markup et Wired sont des journaux américains centrés sur l'impact des technologies sur la société. Aaron Sankin traite les actualités alliant technologie et inégalité, tandis que Soya Mathieu, par son passif d'ingénieur, a développé des outils afin de récolter de nombreuses données sur les algorithmes et leur persistance à entretenir les valorisations ou dévalorisations de certains groupes sociaux et les inégalités. L'article porte sur la non-efficacité des algorithmes de prédiction utilisés au sein de la police américaine pour la détection de crimes. De nombreuses sources sont utilisées au travers de cet article. Si l'article s'appuie sur des témoignages directs de policiers et sur des articles scientifiques en sciences politiques et en psychologie, sa contribution majeure est d'avoir calculé la corrélation entre des prédictions du logiciel Geolitica, récupéré sur un cloud mal sécurisé, et les statistiques officielles de criminalité. Ces méthodes d'investigation sont détaillées sur le site de The Markup. L'article vise à dénoncer l'inefficacité des logiciels de prédiction de crimes au sein de la police en prenant l'exemple de la ville de Plainfield, dans le New Jersey. D'une part, l'algorithme aurait un taux de réussite inférieur à 1% sur environ 24 000 prédictions générées. Ce taux est encore plus bas si nous prenons en compte seulement les crimes ou les cambriolages. Le capitaine de la police de Plainfield s'interroge sur la pertinence d'avoir investi dans un système peu précis et peu utilisé. D'autre part, Geolitica, l'entreprise derrière ce logiciel de prédiction, revendique que la simple présence de policiers sur un lieu de crime prédit aurait un effet dissuasif même si la prédiction se révèle fausse. Cela soulève alors un autre problème évoqué dans l'article par le criminologiste David Westbird, qui est que la surprésence de la police peut avoir des conséquences négatives telles que l'augmentation des délits ou encore une baisse de confiance dans les services publics. Un autre effet de bord négatif est la tendance de l'algorithme à viser des quartiers racisés, ce qui a pour effet de renforcer les inégalités. Ce problème a déjà été remarqué dans une étude qui a passé en revue les recherches sur les biais raciaux dans la reconnaissance faciale. Elle montrait que ces biais apparaissent à toutes les étapes du processus, et même les outils utilisés pour les repérer sont eux aussi biaisés. Résultat, ces technologies ne répondent pas vraiment aux besoins d'une société moderne et diversifiée. Si on reprend sur notre article, on note également une grosse inconsistance sur les prédictions lorsqu'on les compare avec les crimes réels, révélant un chiffre inférieur à la réalité. En plus d'être inefficace, les algorithmes ne prédisent même pas les crimes qui se passent réellement. La démographie est également un facteur qui fait beaucoup varier les prédictions, que cela soit la taille de la ville ou encore la nature des quartiers ciblés. Après la présentation de notre article, nous allons écouter un autre extrait du podcast France Culture, et cette fois nous écouterons Aurélie Jean, docteur en sciences et entrepreneur, spécialiste des algorithmes, qui nous donne un peu plus de contexte sur l'arrivée et les prémices de la police prédictive aux États-Unis.
Juste pour ajouter un point, c'est ce qu'on appelle l'evidence-based sentencing. C'est quelque chose qu'on a commencé à théoriser au début des années 90 aux États-Unis, mais qu'on a commencé à développer dans les années 70. C'est-à-dire que dans les années 70, c'est très simple, la délinquance augmente de manière massive aux États-Unis et les prisons sont engorgées, les tribunaux sont engorgés. On s'est dit, il faut qu'on change de politique pénale. La stratégie pénale était plutôt restauratrice. On se disait qu'on allait réhabiliter les délinquants. Et là, on se dit, c'est la panique et il faut qu'on identifie les gens dangereux. Il faut qu'on identifie les gens dangereux, qu'on les mette en prison, qu'on les y laisse. Et donc, on va effectivement réaliser des scores et évaluer la dangerosité d'un individu. Et donc, on a démarré bien avant l'apprentissage automatique. On a commencé à faire ça, c'était des calculs statistiques. Et aujourd'hui, les outils qui sont utilisés aujourd'hui dans la quasi-totalité des États américains ne sont pas forcément des outils très élaborés et très sophistiqués. Alors, on les critique. Comme cela a été dit, on les critique parce qu'ils sont très largement biaisés, parce que c'est le problème de ces algorithmes, c'était le problème de PredPol, c'est le problème de cet algorithme Compass qui effectivement, lorsqu'il se trompe deux fois plus souvent quand les personnes sont noires que quand elles sont blanches. Et je crois que il y a de vraies questions à se poser.
La surveillance contemporaine prolonge la finalité historique de ce mécanisme, le maintien de l'ordre social. Toutefois, ce contrôle, autrefois exercé de manière directe et visible par l'État, s'est transformé. Il s'est désormais automatisé en partenariat avec des acteurs privés, comme le rapporte le Conseil d'État lors d'un rapport intitulé « Sécurité publique, puissance publique, acteurs privés » publié le 20 novembre 2009, et manque de transparence pour les citoyens.
L'utilisation de logiciels de prédiction fournis par Geolitica s'inscrit dans une logique d'extension de la surveillance où les États ou institutions publiques investissent dans des technologies de surveillance de masse. D'après le rapport du ministère de l'Intérieur, intitulé « Chiffres clés de la sécurité intérieure 2024 », publié le 27 mai 2025, le taux de crime en France ne connaît pas d'énormes changements de dynamique. Les violences sexuelles et physiques, ainsi que les tentatives d'homicide, sont toujours en augmentation. Mais on observe aussi une baisse ou un état stable pour d'autres types de crimes, tels que les différents types de vols. Cet investissement est donc justifié par le combat contre l'insécurité et la répression des délits et crimes, ainsi qu'un perfectionnement des dispositifs de sécurité déjà existants. Or, comme nous l'avons rapporté précédemment, cela est contraire au sentiment général d'insécurité globalement constant ces dernières années, d'après une étude en 2021. D'autres études sur l'insécurité ont été menées par l'INSEE en 2023, séparant différents types de sentiments d'insécurité, et on peut y lire une légère augmentation selon le sentiment observé. Cependant, les investissements dans la surveillance policière sont antérieurs à ces études, on ne peut donc pas réellement y voir de corrélation. Cette contradiction est souvent contournée par les gouvernements qui s'appuient davantage sur la peur potentielle et la demande symbolique de sécurité relayée par les médias pour légitimer l'extension des dispositifs de surveillance. Ces propos sont d'après le livre de Didier Bigot, La mondialisation de l'insécurité, paru à l'été 2005. Néanmoins, cette fuite vers l'avant de la surveillance de masse conduit les pouvoirs publics à s'entourer de partenaires privés par lobbyisme et un rapport de force qui a basculé en la faveur de ces derniers. En plus du secret d'État concernant la surveillance du peuple, viennent alors s'ajouter les acteurs privés. Le secret d'État dérive de la raison d'État, et la raison d'État, d'après le livre de Félix Traeger Contre Histoire d'Internet paru en 2023, est un principe de philosophie politique développé à partir du XIIe siècle. À travers les siècles, l'idée centrale est restée la même: l'État peut justifier une action allant à l'encontre des normes communes en mettant en avant la sécurité et l'intérêt général du peuple. Cependant, il règne une certaine ambiguïté autour de la définition de la sécurité et l'intérêt général, une ambiguïté qui renforce le manque de transparence évoqué plus tôt. Cette solution s'inscrit assez bien dans la logique marchande touchant tous les aspects de la société. Là où les empires disposaient de milliers d'espions infiltrés et non identifiés, les systèmes de surveillance algorithmique reposent sur des critères et biais inconnus des citoyens. Pour preuve, un passage du rapport sur la police prédictive de la Quadrature du Net, publié le 18 janvier 2024, où je cite « Non seulement il n'y a pas de tentative significative et proactive d'informer les citoyens sur le fonctionnement exact de ces systèmes, plus grave encore, le droit à la liberté d'information que nous avons exercé s'est heurté le plus souvent à l'absence de réponse, notamment de la part du ministère de l'Intérieur. »
La surveillance de masse s'est étendue grâce aux nouvelles technologies permettant d'agréger et stocker beaucoup plus de données qu'auparavant, ainsi que l'utilisation de ces données. La police prédictive s'inscrit dans une logique similaire. Elle est le fruit de l'avancement de l'innovation, mais également de l'inefficacité des dispositifs existants, comme le rapporte l'auteur Le Mans-Langlois. Ces algorithmes ont recours à des variables sociodémographiques corrélées à la criminalité, et le croisement de ces dernières permet alors des prédictions. Cette surveillance engendre également un phénomène d'autocensure. Les citoyens conscients d'être surveillés restreignent leurs opinions et comportements par peur d'une sanction. Ce phénomène, nommé « chilling effect » par Solve en 2007, a d'ailleurs été reconnu par la Cour suprême des États-Unis en 1953. La Cour suprême reconnaît que certaines formes de surveillance ou de contrôle peuvent dissuader les individus d'exercer leur droit à la liberté d'expression ou de se renseigner sur certains sujets. Cependant, ces données peuvent être biaisées par des pratiques policières telles que la surpoliciarisation de certains quartiers ou une discrimination des contrôles. Les forces de l'ordre sont alors déployées vers des zones ou profils déjà ciblés, consolidant ainsi des inégalités sociales préexistantes. En conclusion, une généralisation de la surveillance algorithmique risque d'éroder les droits des citoyens. Ces droits sont fragilisés et deviennent insuffisants lorsque la raison d'État est invoquée. Par conséquent, un contrôle démocratique basé sur la transparence et les débats publics paraît indispensable pour éviter des dérives.
Merci beaucoup Rida et Florent pour cette intervention. Merci également Hugo et Raphaël. Donc là, on a vraiment beaucoup défriché le sujet de la surveillance à la fois sur le web et dans les villes. N'hésitez pas du coup à aller sur librecours.net pour continuer à explorer le sujet et à voir en quoi eh bien, ça s'inscrit dans une même logique économique qu'on nomme capitalisme de surveillance pour ne pas spoiler. On va terminer cette émission là-dessus. Donc, pour rappel, elle est le fruit du travail des étudiantes et des étudiants du cours W01 à l'UTC et du projet librecours.net. Elle était diffusée en direct depuis le studio de Graphite le 11 juin 2025 et vous pourrez la retrouver prochainement en podcast sur tube.picassoft.net avec l'ensemble des sources utilisées. Merci pour votre écoute, bon après-midi et au revoir à toutes et à tous.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.